Voici le journal de Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Donald Trump reprend sa campagne un peu plus d'une semaine après son test positif au Covid. Il a commencé par une allocution à la Maison-Blanche hier. Son médecin l'assure, il n'est plus contagieux. Comme les Marseillais, les Parisiens, les Grenoblois voient leur bar fermé pour cause d'épidémie depuis hier. Toutefois, il reste des lieux pour boire un verre dans la ville, vous l'entendrez. Et puis à suivre, la nouvelle division Cold Case de la Gendarmerie Nationale, à ne pas confondre avec ce qu'il se fait au FBI, Nadal Djokovic en finale de Roland-Garros, et l'exploit signé Christophe Malo. Il a 12 ans et a relié Sainte-Lucie à la Martinique à la nage. C'est Laetitia Bernard qui nous en parle dans Esprit Sport. Rendez-vous tout à l'heure.
Et l'invité et eux de la matinale à 8h20, ce sera Salomé Berliou. Elle est fondatrice et présidente de l'association Chemin d'Avenir pour l'avenir des jeunes dans les zones dites périphériques.
France Inter.
Je vais bien, ce sont les premiers mots de Donald Trump hier au balcon de la Maison Blanche.
Oui, c'était lors d'une réunion publique, la toute première depuis que le président américain a été testé positif au Covid. Quelques centaines de personnes étaient présentes pour écouter un discours axé sur la sécurité et l'ordre. Discours, comme d'habitude, assez clivant, correspondance aux États-Unis de Benjamin Fontaine.
La Maison Blanche avait annoncé entre 20 et 30 minutes de discours. Il n'a duré que 17 minutes. 2000 invités étaient attendus. Il n'était même pas 500, mais qu'importe, Donald Trump voulait surtout lancer un message à ses supporters. Je vais bien, dit le président après avoir enlevé son masque devant une foule vêtue de t-shirts bleus et de casquettes rouges. Très vite, il aborde le sujet du moment, le Covid.
Je veux que vous sachiez que notre nation va venir à bout du virus chinois, comme nous l'appelons. Nous produisons de puissantes thérapies et des médicaments. Nous guérissons les malades et on va bientôt avoir un vaccin. Il va disparaître et il disparaît et le vaccin va nous aider et les traitements thérapeutiques vont beaucoup nous aider.
D'une voix légèrement enrouée, le président entre dans le vif du sujet. Il attaque les démocrates qu'il accuse à tort de vouloir démanteler les services de police.
Joe Biden a aussi dit que lorsque vous appellerez la police au 911, un thérapeute devrait répondre. Ça ne fonctionne pas.
Donald Trump répète qu'il a toujours l'intention de mettre fin à l'Obamacare pour établir un système de santé moins coûteux. Il promet des emplois pour les Afro-Américains, des aides pour accéder à la propriété, tout en assurant sécurité et protection. Avant de conclure, je suis le président qui a fait le plus pour la communauté noire depuis Abraham Lincoln.
Notre correspondant aux États-Unis, Benjamin Fontaine. Et puis j'ajoute que dans la nuit, le médecin du président américain a déclaré que Donald Trump n'était plus contagieux. D'ailleurs, Donald Trump est bel et bien reparti en campagne. Il retrouve les estrades de meeting demain en Floride, avant la Pennsylvanie mardi, puis l'Iowa mercredi. Retour en France, où les indicateurs de l'épidémie se dégradent encore. Record de 27 000 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures. Près de 1500 patients Covid sont actuellement en réanimation. La reprise de l'épidémie a fait passer 4 nouvelles métropoles en zone d'alerte maximale ce week-end. 4 métropoles, dont Grenoble, où, comme c'était déjà le cas à Paris par exemple, les bars sont maintenant fermés pour 15 jours. Mais comme dans la capitale, Gérard Fourgeot, on peut toujours boire des coups au café-restaurant.
Le seul moyen de prendre l'apéro, c'est dans un bar, un restaurant. Mohamed, avocat grenoblois, est un habitué du comptoir d'Hippolyte, un bouchon du centre-ville, chaque samedi avec un ami.
Comme vous voyez, monsieur, j'ai le masque, mais ça ne m'empêche pas de boire un verre de vin rouge.
Sergial, le patron, a installé des tables dans la partie bar du restaurant.
On a moins de problèmes que les bars purs, c'est sûr, qui sont complètement fermés. Où il suffit que les gens soient assis et grignotent quelque chose, vu qu'on a une licence restaurant. Personne ne doit être content, tout le monde doit être assis et personne ne doit être debout.
Bien sûr, un mètre entre moi et mon copain et son chien qui est en face de moi.
Le copain, c'est Boilem, un verre de Sancerre à la main.
Il faut cesser d'affoler les gens, parce que là, ça prend des proportions un peu dramatiques. Le maire est passé par là, il les a autorisés à servir, donc à continuer à vivre. Dès lors que les gens étaient assis et pas au comptoir, ils pouvaient rester parce qu'ils étaient complètement affolés. Ils ne savaient pas s'ils allaient fermer, s'ils allaient ouvrir.
Et malgré tout, les clients sont tous convaincus de la nécessité de se protéger. Ici à Grenoble, le virus est 5 fois plus présent qu'au printemps.
Et puis à Grenoble, comme à Lyon, Saint-Étienne ou encore à Lille, les salles de sport sont aussi fermées. Cependant, 90 acteurs du monde sportif, dont Zizou, Zinedine Zidane, demandent à les rouvrir dans le journal du dimanche. Si la tribune ne nie pas la gravité de l'épidémie, elle dénonce des décisions infondées et une stigmatisation, je cite. Vous entendrez d'ailleurs un autre signataire de la tribune à 9h tout à l'heure sur France Inter, l'ancien athlète Stéphane Diagana.
Champion du 110 mètres haies. Une semaine après le passage de la tempête Alex, toujours pas de retour à la normale dans les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes.
Si quelques routes, quand elles ne sont pas détruites, ont rouvert, leur accès est très contrôlé car il faut réserver les accès aux secours et au transport de produits de première nécessité. Les gendarmes ont déployé des barrages et Sonia Gobry, vous vous êtes rendue sur l'un d'entre eux à Utelle, près de la vallée de la Vésubie.
Trois gendarmes sont postés à l'entrée du rond-point. Ils font signe aux automobilistes de s'arrêter pour effectuer les contrôles.
Mettez-vous sur le côté. Vous allez où, s'il vous plaît?
La Colmiane,
c'est pas possible. Hein.
Vous pouvez fermer la Colmiane, monsieur.
Je vais vous inviter à faire demi-tour.
La route de la Vésubie est toujours barrée, mais même si elle était praticable, Jean et Bernard auraient dû rebrousser chemin. Ils voulaient rendre visite à une amie, mais ce n'est pas un motif recevable pour le capitaine de gendarmerie, David Roussel.
C'est la seule route d'accès, vous voyez, pour les pompiers, pour les services de réfection des routes. On doit vraiment préserver cet axe. Donc on fait le tri et on laisse passer les gens qui ont vraiment quelque chose à faire et qui sont utiles, entre guillemets, dans les vallées sinistrées.
Une mesure que finalement comprennent bien les automobilistes.
On va faire demi-tour.
S'il y a, c'est que ma copine, elle ne me verra pas. Voilà. Elle aura mon coup de fil à la place.
Les habitants, eux, en revanche, sont autorisés à circuler. La départementale 6202, cette route qui mène vers la vallée de la Tinée et vers la moyenne vallée du Var, a rouvert vendredi pour le plus grand bonheur de Nicolas. Il habite à Villars-sur-Var.
Ah, parce que j'en ai marre de toute cette semaine là. Je suis heureux. J'ai juste 40 minutes de Saint-Laurent à Villars.
Contre 2h30 à l'aller, puis au retour, entre son domicile et son travail.
Et puis sur ces routes, les risques d'éboulement ne sont pas totalement écartés non plus. De la pluie est d'ailleurs prévue par Météo France aujourd'hui sur la région. C'est-à-dire également dans le JDD, 40 maires de grandes villes demandent l'appui de l'Union européenne pour la transition écologique. Il s'agit d'édiles de gauche, issus des rangs écologistes également, mais aussi de droite, comme le maire d'Angers. Une nouvelle division au sein de la gendarmerie nationale, la division Cold Case, dédiée aux affaires non résolues. Cette nouvelle unité est pensée dans le sillage de l'affaire Nordal-Lelandais, concentre sur le même lieu des experts ADN, des profileuses et de nombreuses intelligences humaines et artificielles. Elle se situe à Cergy-Pontoise en Ile-de-France. Emmanuel Leclerc s'est rendu cette semaine à la présentation de cette nouvelle division Cold Case.
Pour présenter leur nouvelle division Cold Case, les experts en police judiciaire de la gendarmerie ont créé un cas fictif.
Le 5 avril 2000, le corps sans vie de Béatrice T, infirmière libérale.
Une vieille bouteille d'eau laissée de côté au départ il y a 20 ans où l'on finit par détecter un mélange de gasoil et d'essence, un profil génétique qui émerge de vieux scellés de scènes de crime. Fabrice Bouillet est le chef de cette nouvelle division Cold Case à la gendarmerie nationale.
Là, nous allons déstructurer complètement la procédure, l'éclater, permettre un regard tout à fait nouveau, pluridisciplinaire, et faire en sorte qu'on prenne un autre chemin.
On est tous ensemble, et ça c'est vraiment ce qui rend les choses hyper fortes.
Marie-Laure Brunel-Dupin travaille depuis 19 ans sur les Cold Case en France. Elle est l'une des premières profileuses formées aux États-Unis. Aujourd'hui, elle estime que la division Cold Case de Cergy-Pontoise est bien différente de cellules du FBI, par exemple, qui repose sur l'intuition d'un enquêteur acharné, mais souvent bien seul.
On a tous un regard différent et complémentaire, et c'est pour ça que cette division, elle a tout ce potentiel.
La nouvelle division Cold Case de la gendarmerie travaille actuellement sur 14 vieilles affaires criminelles non résolues, avec de sérieux espoirs de résolution dans les semaines, les mois qui viennent.
La division Cold Case de la gendarmerie nationale, sujet proposé par Emmanuel Leclerc et à retrouver en détail sur le site franceinter.fr.
Je parlais à l'instant de Stéphane Diagana, j'ai dit 110 mètres haies, c'est bien 400 mètres haies, ex-champion du 400 mètres haies, me précise Laetitia Bernard. Tiens, c'est l'heure de parler des sports justement.
Et dans quelques minutes, Esprit Sport avec Laetitia Bernard. Mais avant cela, le tennis. La victoire d'Iga Swiatek chez les dames hier et la finale homme de Roland-Garros cet après-midi avec Rafael Nadal-Novak Djokovic, 56e choc du nom. L'Espagnol va tenter de décrocher un 13e titre porte d'Auteuil. un 20e en Grand Chelem. Le Serbe, lui, rêve d'un deuxième titre à Roland-Garros. Jean-Pierre Blimaud.
C'est la troisième fois que les deux géants du tennis vont se retrouver à Roland-Garros pour la finale. Les deux premières, en 2012 et 2014, avaient tourné à l'avantage de Nadal à chaque fois en quatre manches. Loin d'être une garantie pour Rafael Nadal, persuadé que le numéro 1 mondial peut le battre à Roland-Garros.
Les tournois sont différents, les situations sont différentes. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais c'est toujours difficile de jouer contre Novak. Il faudra que je joue mon meilleur tennis. Si ce n'est pas le cas, la situation sera difficile.
En 2015, Djokovic avait terrassé Nadal, mais le Serbe avait obtenu cette victoire historique en quart de finale. Plus largement, les deux hommes se sont déjà rencontrés à 8 reprises dans une finale de Grand Chelem, avec ce bilan équilibré, 4 victoires chacun, mais pas une seule pour Djoko sur la terre parisienne. Novak Djokovic.
C'est mon concurrent le plus important. Nous avons disputé tant de matchs palpitants ensemble. Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Nous sommes suffisamment expérimentés pour aborder des matchs de cette envergure en gardant la tête froide. Mais il ne faut pas en voir davantage.
Djokovic pourrait aussi être le premier à terrasser Nadal en finale de Roland-Garros. Lui qui est déjà l'un des deux seuls joueurs de l'histoire, avec le Suédois Robin Söderling ayant battu Nadal sur la terre parisienne.
Voilà, premier coup de raquette vers 15h sur le court Philippe Châtrier. Du football à suivre également aujourd'hui avec la revanche de la finale de l'Euro 2016. France-Portugal ce soir en Ligue des Nations, coup d'envoi de la rencontre à 20h45.
Et il y a de la moto aussi, le championnat du monde de moto GP, il s'invite dans l'Hexagone aujourd'hui.
Oui, le Grand Prix de France en début d'après-midi sur le circuit Bugatti du Mans, où 5000 personnes sont autorisées à venir voir les exploits de Fabio Quartararo. Le Niçois partira en pole position, pas vraiment surprenant car il est leader du championnat du monde, même si lui ne s'y fait pas encore.
Ça me fait bizarre parce que même en Moto 3 ni en Moto 2, j'ai jamais été leader d'un championnat et on est leader du championnat après la mi-course. Il y a peut-être une pression supplémentaire. Moi, je la vois pas vraiment comme une pression parce que à la fin, on est devant. J'ai 8 points d'avance sur Joan Mir, donc c'est quand même extraordinaire. Je me sens bien. J'ai vraiment hâte de faire mes premiers tours de roue. C'est vrai que bon, il manque énormément de public, mais on peut voir qu'il y a eu beaucoup de courses qui ont été annulées dans beaucoup de pays et je pense qu'on peut être très content.
Voilà Fabio Quartararo qui partira donc en pole position du Grand Prix de France tout à l'heure en début d'après-midi.